Les infos week-end.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Radio J en ce dimanche 15 juin 2025. Tout de suite, un point complet sur l'actualité. Il est 9h et bienvenue à tous à la une de l'actualité. Tout d'abord dans la bande de Gaza, on l'a appris ce matin, un soldat israélien a été tué. Il a été victime hier d'un tir anti-char à Khan Younes. Noam Shemesh avait 21 ans, il était originaire de Jérusalem. Il est le 867e soldat à être tué depuis le 7 octobre. Sur le front de la guerre entre Israël et l'Iran, nouveau barrage de missiles iraniens meurtriers cette nuit contre Israël. Le bilan est très lourd, 10 morts, 4 à Tamra dans le nord, 4 arabes israéliennes d'une même famille et 6 autres à Bat Yam dans le centre d'Israël. 2 nouveaux corps ont été retrouvés dans les décombres de l'immeuble. Il y a également 2 femmes, un garçon de 10 ans et une fille de 8 ans qui ont été tués dans ces bombardements. Et le dernier bilan fait état d'au moins 270 blessés. Selon les estimations, il y a aussi 20 Israéliens qui restent portés disparus ce matin. La méthode employée par le régime islamique, c'est de saturer les systèmes antimissiles. Téhéran a tiré une centaine de missiles cette nuit contre Israël. Le taux d'interception reste élevé, 90%. Hier soir, lors d'un entretien avec le président russe, Donald Trump a affirmé que la guerre contre l'Iran devait s'arrêter. Le premier ministre israélien lui assure qu'il a un soutien clair du président des États-Unis. Donald Trump qui affirme, en tout cas ce matin, si nous sommes attaqués par l'Iran, l'armée américaine répliquera avec toute sa force. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, hier dans une vidéo publiée en anglais.
Nous avons des indications. Les leaders en Iran sont déjà en train de faire leurs valises. Je vais vous dire ce qui aurait pu se passer si nous n'avions pas agi. Nous avions des informations sur ce régime sans scrupules qui planifiait de fournir des armes nucléaires qu'ils développent à leurs proxys terroristes. C'est du terrorisme nucléaire sous stéroïdes. Cela aurait été une menace pour l'ensemble du monde. Voilà ce que fait Israël avec le soutien clair du président des États-Unis Donald Trump et de nombreux autres dans le monde.
Et ce matin, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni proposent de tenir des négociations avec l'Iran sur son programme nucléaire. Benjamin Netanyahou lui exhorte les Israéliens à respecter les directives du commandement du front intérieur. Protégez votre vie, protégez votre corps, a-t-il insisté en citant la Torah. Les écoles en Israël sont toujours fermées, les lieux de travail aussi, sauf ceux jugés essentiels. Le trafic aérien est également à l'arrêt total, ce qui signifie donc que des étrangers sont bloqués en Israël, mais que des Israéliens sont aussi actuellement bloqués à l'étranger. Il y en a pour l'instant 50 000. Toute la flotte est prête à décoller pour aller les chercher dès que le feu vert sera donné. La priorité sera donnée au lieu où les Israéliens sont actuellement les plus nombreux, New York, Bangkok, Italie, Grèce et Chypre. Ces évacuations devraient prendre plusieurs semaines. Répercussions en France, la crainte d'attentats de la part du régime islamique ou de ses proxys, vigilance particulière par rapport aux intérêts israéliens et américains et aux lieux de la vie juive en France, car ce sont eux qui pourraient être ciblés, mais l'avertissement concerne également les lieux de rassemblement et les événements festifs. Le ministre de l'Intérieur a adressé un message au préfet hier à ce propos. Bruno Retailleau appelle aussi à la mobilisation des services de renseignement. Vendredi soir, le président Emmanuel Macron a déjà annoncé le renforcement du dispositif Sentinelle. Le congrès du PS à Nancy et le coup de gueule hier de Jérôme Guedj, le député socialiste qui a rompu avec Jean-Luc Mélenchon après les massacres antisémites du Hamas commis le 7 octobre en Israël. Eh bien, Jérôme Guedj a traité Jean-Luc Mélenchon hier à la tribune, je cite, de salopard antisémite. Il a aussi appelé à couper tout lien avec LFI. Jérôme Guedj.
Je suis un fervent défenseur du rassemblement de la gauche et des écologistes, mais je nous abjure collectivement, ne vendons pas notre âme aujourd'hui au nom de ces huées fanatiques. Il n'est plus possible, d'une manière ou d'une autre, d'avoir la moindre point de contact avec ceux aujourd'hui qui abîment la gauche, qui abîment l'universalisme, qui abîment la République, qui abîment la laïcité et qui, ce faisant, abîme la République sociale chère à notre cœur.
C'était donc le député socialiste Jérôme Guedj.
Le Forum Radio J. Retrouvez tous les dimanches à 14h10 le Forum Radio J, l'émission politique historique de Frédéric Aziza.
Ce dimanche, je recevrai le député LR Philippe Juvin.
Le Forum Radio J de Frédéric Aziza, c'est tous les dimanches à 14h10, uniquement sur Radio J.
Radio J. Bonjour, c'est Ilana Ferradian. Vous connaissez ma voix depuis une dizaine d'années maintenant, mais pas forcément mon histoire. Cette histoire, j'ai décidé de vous la raconter sans filtre, à travers mon livre « 7 ans à t'attendre, journal de bord d'une PMA ». Je m'y livre sans tabou, sur mon infertilité, à travers les nombreuses suives que j'ai dû endurer pour avoir ma fille, parce que c'est un sujet qui touche énormément de femmes et de couples dans la communauté. J'espère vous donner de la force et de l'espoir. « 7 ans à t'attendre, journal de bord d'une PMA », aux éditions David Reynarque.
Les enfants de la République, Frédéric Aziza.
Frédéric Aziza.
Radio J. Radio J.
Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République, dont vous êtes l'invité, Jean Quatremer. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes journaliste et éditorialiste et essayiste. Vous êtes depuis 1990 le correspondant européen de Libération à Bruxelles. On vous voit aussi sur LCI, où vous êtes chroniqueur, des chroniques qui, depuis le 7 octobre, détendre un peu avec l'antisionisme ambiant. Mais d'abord, pourquoi avoir choisi de défendre, comme vous le faites, l'Europe ?
L'Europe, je suis lorrain, donc je suis un homme des frontières.
Ouais. Et, vous êtes né à Nancy, hein ?
Je suis né à Nancy, et donc on a vu passer les Allemands en 1870, en 1914, en 1940. Donc forcément, vous devenez européen. C'est quelque chose que vous avez dans vos tripes. J'appartiens à une génération qui est née immédiatement après la guerre, et dont mon père, ma mère, a connu la Seconde Guerre mondiale. Et ça fait que l'Europe est une nécessité.
Une nécessité. Et donc cette europhilie, elle est due quelque part... Eh bien, à votre héritage familial.
Évidemment, hein, l'Europe au ventre. Comme ce que disait Jean-Claude Juncker, l'ancien Premier ministre luxembourgeois et ancien président de la Commission. Et il disait exactement la même chose, c'est-à-dire, voilà, moi, l'Europe, ça se discute même pas, c'est dans les tripes.
Et ce que disait aussi Simone Veil. Hein,
voilà.
Et justement, Jean Quatremer, quelques mots d'abord sur votre parcours. Vous avez passé une partie de votre jeunesse, jusqu'à 15 ans, en Algérie, où votre père était médecin militaire. Quel souvenir vous en avez gardé, parce que c'est le principe de l'émission, hein, de parler du parcours de l'invité. Donc, quel souvenir vous en avez gardé et quel souvenir vous regardez de l'Algérie de l'après-indépendance, si vous avez des souvenirs encore en tête. Vous étiez très jeune. Mais vous êtes resté en Algérie jusqu'en 1972, donc vous avez vu des choses.
Voilà, ça, jusqu'à 14 ans, la veille de mes 15 ans, effectivement. Mon père était médecin militaire, il a été détaché dans la Légion. Il a fait 2 ans dans les Aurès, et ensuite il a fait venir sa famille, et il avait choisi Abadla, qui est une ville à peu près à 800 km au sud d'Oran, en plein Sahara. C'est-à-dire, je suis vraiment...
Vous avez le type.
J'ai le type, voilà, je suis un homme du désert. C'est-à-dire que mon père, moi j'ai passé une partie de mon temps dans une caserne de la Légion, et puisque la Légion est restée au Sahara jusqu'en 1966, et pas en 1962, et aussi avec les Touaregs, parce que c'était un endroit où il y avait énormément de Touaregs, et mon père était soigné, évidemment, toute la population civile, dont les Touaregs. Donc j'ai un souvenir un peu magique, si vous voulez, c'est une Algérie qui a aujourd'hui largement disparu, évidemment.
Et c'était quoi l'Algérie des années 60? Si on la compare à l'Algérie d'aujourd'hui.
Vous savez, c'est amusant parce que, par exemple, j'ai des photos de moi à l'école à Abadla, donc dans une classe, je suis dans une classe algérienne, juste avant l'indépendance et un peu après, et je suis entouré de tas de petites filles, donc je suis le seul petit garçon quasiment dans la salle de classe.
La mixité existait.
La mixité existait, avec des petites filles qui sont mortes de rire parce que je suis le seul blondiné de la classe, et voilà, on était élevés tous ensemble, et ça se passait très bien, et j'ai vu en fait, à partir du coup d'état de Boumédienne, donc qui a chassé Ben Bella du pouvoir, Boumédienne a joué sur une certaine islamisation et arabisation, les deux en même temps, de la société algérienne. Et on a vu la société petit à petit se durcir, notamment avec les jeunes qui n'avaient pas connu la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que dans la famille, mon père, on n'avait que des amis algériens.
Bah, vous étiez peu nombreux, des Français restés en Algérie.
Mais surtout à Abadla, et ensuite après on est remonté à Colombéchard, aujourd'hui qui est devenu Béchard. À l'époque, enfin, je veux dire, la question, il n'y avait pas de problème. En revanche, ce qui m'avait frappé, mais je ne m'en suis pas rendu compte sur place, il y avait une communauté juive à Béchard.
Qui était restée.
Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque.
Aujourd'hui, il n'y en a plus du tout. Hein.
Et voilà, j'ai vu partir la dernière famille juive de Béchard. C'était mes amis.
En quelle année ?
Et un jour, donc, ça devait être en 1967. Mmh.
Après la guerre des six jours, peut-être.
C'était peut-être lié à ça. En tous les cas, moi, je comprenais pas bien parce que j'étais jeune encore et je comprenais pas pourquoi ils partaient parce qu'on était tous là, on se sentait tous algériens, même si moi, j'étais pas né sur place, je suis né à Nancy. Mais
en tout cas, les juifs d'Algérie se sentaient algériens. Ils étaient souvent en Algérie avant les musulmans. Hein.
Évidemment. Et d'ailleurs, ils avaient un statut bien inférieur à celui des Arabes de l'époque. Parce que c'était pas l'Algérie du temps de ce temps-là. Et ce sont les Français. Je le rappelle toujours, qui ont affranchi en quelque sorte les Juifs du statut de quasi-esclaves, dans lequel ils étaient maintenus.
Donc, à travers le décret criminel.
Et quand ils sont partis, quand j'ai vu cette famille partir, j'ai pas compris. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et ils étaient tristes, vous pouvez pas savoir. C'était vraiment un arrachement. Il y avait pas de raison. C'était des petits artisans. Ils faisaient à la doublure. J'imagine qu'ensuite ils ont été quelque part dans le marais, mais je les ai jamais revus. Mais c'était un déchirement.
Et d'ailleurs, c'est un peu l'histoire de la famille Drey, c'est pareil. La famille de Julien Drey, pareil. Ils sont venus en France après, dans ces années-là.
Dans ces années-là, voilà, c'est le moment où les derniers Juifs sont partis.
Alors, votre héritage, quelque part, c'est quoi? C'est vos parents, vos racines, vos rêves, vos lectures, ou l'école républicaine qui ont forgé l'homme que vous êtes devenu?
D'abord,
puisque vous parlez de l'école en Algérie, l'école en France.
C'est un ensemble. Ouais. Dire d'abord, mon père est un Lorrain, c'est une vieille famille lorraine. Dire c'est qui plonge ses racines jusque dans au XIVe siècle. Hein, c'est pour vous donner une idée de l'enracinement.
Ça me donne le vertige. Voilà,
mais moi aussi, quand je regarde l'arbre généalogique, je me dis waouh. Et d'autre part, ma mère, elle était suédoise et on a vécu en Algérie. Vous imaginez un peu le bordel dans nos têtes. C'était quand même un peu compliqué les enfants de s'identifier précisément. De savoir d'où on venait. Et en plus, en Algérie, mon père, qui lui parlait couramment arabe, parce que pour soigner notamment les femmes algériennes, en dehors de la présence de leur mari, il avait appris l'arabe pour pouvoir chasser les hommes et s'occuper des femmes, qu'il puisse leur dire quels étaient les symptômes de ce dont elles souffraient, etc., etc. Et pour ma première langue, en sixième, mon père, au lieu de me faire apprendre l'arabe, je savais insulter en arabe couramment.
Mais je
sais toujours, ça c'est très pratique. Mmh. Et en revanche, pour apprendre comme première langue, il m'a fait apprendre l'allemand en Algérie, à 1000 km au sud d'Oran, en plein désert.
Et alors, le Lorrain.
Voilà, je dis à mon père, mais papa, mais pourquoi est-ce qu'on apprend, tu me fais apprendre l'allemand en Algérie, l'arabe serait plus utile. Et là, il met la main sur l'épaule et dit, mon fils, on ne sait jamais, ils peuvent revenir. Et
oui.
Voilà, et tout ça est un ensemble. Parce que, cette tradition familiale qui est de dire, on doit être ami avec les Allemands, on doit connaître leur langue, on doit se comprendre pour éviter de se refaire la guerre, apprendre l'allemand en Algérie dans une école, évidemment, de la République, avec des enseignants tant algériens que coopérants français, parce qu'il y avait beaucoup de coopérants français. Donc, dans cette école-là, ce sont mes racines. Je suis devenu... mon apprentissage d'homme se fait dans cette école-là. Cette école de grande mixité, où il n'y avait aucun problème.
Aucun problème. Et alors,
aucun.
Et aujourd'hui ? Pas l'Algérie, mais la France. Hein. Parce que vous arrivez en France en 72. Alors, il y a eu on parlera un peu de l'année que vous avez passé à la fin des années 60. En France, au moment de 68, mais quand vous arrivez en France, 72,
c'est un autre monde. D'abord, c'est
un
autre monde. D'abord, je découvre la télévision. Mm-hmm. Vous imaginez le choc? La neige. Mm-hmm. J'avais jamais vu de neige de ma vie, donc c'est quand même un choc. Et puis, là aussi, c'est là où on voit qu'il y avait le grand décalage, le rapport aux filles. En Algérie, les garçons étaient avec les garçons, les filles avec les filles. Je parlais des années 60 où c'était pas comme ça, où il y avait une certaine mixité, mais petit à petit ça se durcissait, puis surtout plus on approchait de l'âge adulte. Et là d'un seul coup j'arrive en France, et là on peut regarder une fille, on peut draguer
à 12 ans,
14 ans quand même. Je suis très tardif sur ce plan-là, je vous rassure.
15 ans.
Et donc, ça a été pour moi une sorte de choc, de libération totale, parce que franchement, j'étais pas du tout dans. J'ai été élevé dans un esprit complètement différent, qui était un monde d'hommes d'un côté, un monde de femmes de l'autre, ça se durcissait petit à petit.
Et l'école républicaine d'aujourd'hui ?
Ah ben, l'école républicaine, en tous les cas, moi, l'école républicaine que j'ai connue, c'est pas la même. Mmh. Donc, moi, à mon époque, je passe le bac en 1976. Mmh. En 1976, on était 25% d'une classe d'âge au niveau du bac.
Je veux dire, aujourd'hui, 25%, c'est pratiquement 100%.
Voilà, c'est quasiment 5%. Donc, évidemment, c'était une école qui n'avait rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui, parce que il y avait un respect de l'autorité. On contestait pas les profs. Il y avait des chahuts, hein, je vous rassure. Enfin, on l'a tous connu cette époque-là.
Il y avait pas de meurtre dans les écoles.
C'est pas le souvenir. C'est ça. J'essaie de me souvenir de cette époque-là. Il y avait
parce des on respectait les enseignants.
Voilà, je pense qu'il y avait le respect des parents, qui était fondamental, le respect des enseignants, et c'est vrai quand même, il n'y avait pas de mixité sociale, ça c'est quand même le dire. Moi, l'école que j'ai connue, ni mixité sociale, ni mixité ethnique.
Mais alors, c'était mieux ?
Je ne sais pas que c'est mieux, c'était différent, c'était plus facile peut-être. Mmh. C'est-à-dire que là, on n'est pas confronté au même problème.
Il y a moins de chômage.
Ça a commencé, puisqu'on était, moi quand je suis rentré, c'était en 1972, c'était un an avant la crise de 73, l'explosion du chômage, 79, ça c'est la deuxième choc pétrolier, et là le chômage explose. Mais quand même, en 73, ça commençait à devenir plus dur. Et je vous rappelle que c'est à ce moment-là aussi qu'on a fermé les frontières, que donc le regroupement familial a commencé, parce qu'il n'y avait pas de regroupement familial. Beaucoup d'immigrés marocains et algériens qui venaient travailler ici à la demande des entreprises françaises, ils étaient organisés par l'État français, venaient pour travailler, mais ils construisaient une maison chez eux, ils n'avaient aucune intention de s'établir ici. En 1973, on ferme les frontières, et ces décisions. Le seul moyen pour les étrangers qui vivaient ici, qui avaient un titre de séjour, de rester en France, c'était de faire venir leur famille. Parce que s'ils repartaient chez eux, ils perdaient leur titre de séjour. Donc c'est à ce moment-là qu'on a transformé une immigration de travail en immigration de peuplement. Ce qui n'était pas du tout voulu, hein, c'était pas pensé. C'était juste, il ne faut plus d'immigrés.
Alors, pendant votre jeunesse algérienne, il y a eu un intervalle. Mais 68, vous êtes venu en France. D'abord, est juste de dire que les problèmes de la France d'aujourd'hui viennent de 68. Vous qui êtes les journalistes à Libération, créés par des 68 ans.
Mais je peux pas dire ça parce que moi-même.
Mais pour ça, je vous pose la question.
Oui, mais moi, je peux pas dire ça parce que d'abord, bon, mon père, bien que médecin militaire, détaché à la Légion, était membre du PSU de Michel Rocard, opposant à la guerre d'Algérie. C'est-à-dire, ça lui a valu des ennuis, vous n'imaginez pas. Un militaire opposant à la guerre d'Algérie.
Vous savez autour de lui?
Oui, ça c'est su, évidemment. Ouais. Attends, il y a des services internes à l'armée qui lui permettent de savoir ce que disent les militaires. Mais il faut bien savoir que dans l'armée française, à ce moment-là, les médecins et le service de santé militaire avaient un statut un petit peu à part. C'était pas des combattants. Mon père, il a jamais tiré sur personne. Il soignait les gens des deux côtés. Il m'a raconté aussi des choses, la façon dont l'armée française se comportait.
Là, vous parlez de la guerre d'Algérie.
De la guerre d'Algérie. La façon dont, pendant la guerre d'Algérie, c'était une guerre absolument épouvantable, notamment.
Mais on fera le parallèle avec ce qu'on va parler de Gaza tout à l'heure.
Oui, mais je peux en parler parce que mon père a été témoin de ce qu'a fait l'armée française, des exactions qu'a commises l'armée française. Il m'a raconté notamment, c'est pour moi quelque chose qui m'a aussi fondé. Mmh. Il m'a expliqué que les gens qui arrivaient en Algérie et qui étaient les plus opposés intellectuellement à la guerre d'Algérie, qui étaient pour la paix, qui étaient du côté du FLN, ça faisait marrer tous les militaires de carrière en disant vous allez voir où ils vont terminer. Et effectivement, ils étaient confrontés à la guerre. Un matin, ils trouvaient un de leurs camarades, de leurs amis, etc., tués méchamment par le FLN, et ils basculaient du jour au lendemain dans une ultra-violence. Et mon père disait, c'était souvent des petits instituteurs de gauche, et souvent ils se terminaient, le deuxième bureau, c'était donc les services de renseignement, là où Jean-Marie Le Pen a sévi à l'époque, les recrutaient, c'était ceux-là qu'on venait recruter. Et mon père était très dur à leur égard, parce qu'il disait, c'est des gens qui n'étaient pas formés, ni politiquement, qui ne connaissaient rien à la guerre, et qui arrivaient dans cet univers d'ultra-violence, et qui étaient évidemment toujours les plus fragiles.
Alors les années passent, donc 68 non, hein, ça n'a pas posé de problème.
Non, parce que mon père était du côté des 68 ans.
Vous, quand vous étiez en France, vous avez 10-11 ans en 68.
C'est ça, j'étais fasciné.
Fasciné, oui.
Mais fasciné, voir Cohn-Bendit, la remise en cause de l'autorité générale de Gaulle. Mon père écoutait le général de Gaulle à chacun de ses discours. Je me rappelle, on avait littré, à l'époque il n'y avait pas Internet, parce que chaque jour, chaque fois, de Gaulle sortait un mot qu'il ne connaissait pas.
C'est un peu le Macron d'aujourd'hui.
Voilà, et mon père était là, ah oh, le con là, notamment ce fameux discours sur le carteron de général. Ouais. Tout le monde croyait de généraux, et on croyait que Carteron c'était 4, mais non, pas du tout, c'est une mesure.
Il savait parler, il avait de la culture, c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui, hein, dans la classe politique. Alors les années passent, études de droit, militantisme à la CIMAD et France Terre d'Asie, c'est bien ça?
En fait, je suis absolument parce
et,
que
et arrivé à Libération, on va très vite.
Voilà, on va aller on peut aller très vite. C'est que simplement, moi, je viens d'Algérie. Je sais très bien les problèmes que peuvent poser que peut poser l'immigration, la difficulté d'intégrer des gens qui sont de cultures différentes, de religions différentes et de classes sociales complètement différentes. Mmh. Parce que c'est comme si on faisait venir du milieu du 19e siècle des paysans pour travailler dans nos usines aujourd'hui. Vous imaginez un peu le choc. C'est ce qui s'est passé. Et donc, moi, je connaissais ça. Je préparais une thèse, justement, sur les discriminations dont souffraient les étrangers, et puis que la façon d'y remédier. Et par ailleurs, donc, militant, effectivement, pour vivre contre, pour sauvegarder le droit d'asile, pour maintenir le droit d'asile, militant pour que les étrangers soient traités correctement, une égalité de droit. Mais, et en même temps, j'étais à la Fédération anarchiste. Pourquoi? Parce que...
La Fédération anarchiste?
Oui. Pendant plus de 10 ans. Et
vous savez qui était à cette époque-là à la Fédération anarchiste? Pierre Mazeau.
C'est amusant.
Pierre Mazeau.
Ouais. Ah oui, c'est, vous voyez. Mais pourquoi? Mais parce que moi, je me suis toujours méfié de l'autorité et des pouvoirs constitués. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé que ceux qui avaient l'autorité avaient tendance à en abuser.
Alors donc, on répète. Études de droit, militantisme, CIMAD, France Terre d'Asile, arrivée à Libération, d'abord de manière un peu, comment on va dire, bénévole à la fin des années 70.
Non, c'est 80.
Non, mais vous étiez.
Non,
86, vous arrivez à l'IB.
J'arrive à l'IB tout à fait par hasard en 1984. Moi, je me destinais à être professeur de droit à l'université. Je ne me destinais pas à être journaliste. Pourquoi je ne voulais pas être journaliste? Pourquoi? Je vais être arrogant. Parce qu'à chaque fois que je lisais un article d'un journaliste, je lisais Le Monde à l'époque, c'était dans mon domaine. C'était un tissu de bêtises. Et c'était épuisant de lire les journaux en me disant si c'est le cas dans mon domaine, qu'est-ce que ça doit être dans l'ensemble des autres domaines.
Et on avance, vous avez été formé à la lutte contre le racisme, contre les discriminations, contre la haine de l'autre.
Ah, complètement, oui.
Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui chez vous de tout ça?
C'est intact. Moi, je n'ai pas bougé. Ma fenêtre d'Overton n'a pas bougé. C'est la fenêtre d'Overton des autres qui a bougé. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont admissibles aujourd'hui qui auraient été inadmissibles. C'est quoi, par exemple, l'histoire de Mon Journal? Mon Journal, c'est la lutte contre les discriminations. C'est la lutte contre le racisme, la lutte contre l'antisémitisme, la reconnaissance du droit à l'existence d'Israël. Ça se discutait même pas. C'est les fondements même de ce qu'était l'IBD. Et la lutte contre toutes les religions. Alors, à mon époque, c'était davantage la lutte contre le catholicisme. Et
contre les curés, hein.
Contre les curés, c'était à l'époque. Ouais. Mais parce qu'il n'y avait pas du tout la question de l'islam qui se posait dans les années 80. C'est arrivé bien plus tardivement. Ça s'est arrivé au début des années 2000.
Alors, et puis, quid du droit à la différence?
Alors ça, moi, j'ai toujours eu une position très particulière. C'est-à-dire que j'ai toujours considéré, puisque je viens d'Algérie, j'ai vécu en Algérie, et je sais très bien ce que je devais faire quand je vivais en Algérie, ce que mes parents devaient faire, c'est accepter la culture locale. C'est-à-dire, on vivait comme on voulait chez nous, mais par exemple, quand le Ramadan petit à petit s'est imposé s'est imposé dans l'espace public,
vous mangez pas.
On mangeait pas à l'extérieur, on ne fumait pas à l'extérieur.
C'est une question de respect.
C'est une question de respect. Donc moi, je considérais que le droit à la différence, oui, mais chez soi, en privé, sinon, c'est le droit à l'identité, au et sens alors, de l'identité. Et on doit respecter l'identité des autres, de la société d'accueil.
Et ça veut dire que, et vous dites aussi aujourd'hui, que les gens, les Français, qui sont pas d'origine française au départ, doivent respecter...
Ah mais j'en suis en France. Mais je suis persuadé.
Jésus, c'est coutume française.
Absolument, j'en suis absolument persuadé. Si on veut s'intégrer dans une société, eh bien évidemment qu'on respecte ce qu'est cette société. Si j'émigre aux États-Unis, ben je ne m'appellerai plus Jean, je m'appellerai John. D'ailleurs, j'ai donné des noms à mes enfants parce que je pensais qu'ils iraient vivre aux États-Unis un jour, qui leur permet d'avoir, qui se prononce très bien en anglais ou en français, etc. Je veux dire, c'est normal et je vais pas imposer mes croyances, etc. Mon frère qui a vécu là-bas pendant 5 ans au Texas, on lui posait sans la question de savoir ce qu'elle était sa religion. Quand il expliquait qu'il était athée, ça ne passait pas.
On comprenait pas.
Et donc il a dit à la fin qu'il était catholique et comme ça on lui fichait une paix royale.
Assimilationniste ou intégrationniste.
Je suis assimilationniste, ça c'est clair. C'est-à-dire parce que l'intégration c'est un côté faux cul.
Moi je vais vous dire le bémol. Hein, souvent on considère que l'assimilation, c'est gommer l'héritage qu'on a en soi.
Non. Jamais.
Non mais je vois. Ouais.
Mais moi je pense c'est que
ça le débat entre
et moi c'est grâce voilà, je ne le pense pas, je veux dire l'exemple c'est notamment la communauté asiatique qui elle joue l'assimilation à fond, dire par exemple, ils ont souvent deux prénoms, le prénom pour vous et moi, donc souvent qui a un prénom européen et ils gardent leur prénom asiatique chez eux.
Je vais vous dire, c'est un peu comme ça chez les juifs. Vous avez un prénom à connotation français, voilà. Française et puis vous avez aussi un prénom juif. Hein, hébraïque, deuxième prénom.
Voilà, mais parce qu'il faut jouer ce jeu-là. Je veux dire, on ne cherche. Évidemment, la société d'accueil se transformera au fil du temps, mais ça ne s'imposera pas. C'est-à-dire, on est passé du bœuf bourguignon au couscous, comme plat préféré des Français. Et ben voilà, l'évolution se fera. C'est ce qu'on appelle l'acculturation. Mais ça ne s'impose pas brutalement de l'extérieur. C'est juste pas possible.
Alors, vous parliez du journalisme tout à l'heure. Ben, quelle est votre conception du journalisme ? Est-ce qu'un journaliste se doit d'être objectif ou plutôt honnête avant tout ?
Alors, moi j'ai toujours considéré.
Vous considérez comme journaliste objectif d'ailleurs ou pas ?
Non, je ne me considère pas comme journaliste objectif.
Est-ce que ça peut exister ?
Non, ça ne peut pas. L'objectivité, c'est vraiment un truc d'école de journalisme, ça. Mmh. On n'est pas objectif. Je veux dire que par exemple, lorsque vous choisissez de mettre en une, je ne sais pas, prenons un exemple neutre, Gaza. Plutôt que l'Ukraine.
Ou alors, vous savez, hein, quand vous prenez un exemple neutre, Libération récemment. Génocide.
Même sans les là, sur un fait simplement. Et si on met en une, par exemple, plutôt Gaza que l'Ukraine, c'est plus déjà objectif, parce que pourquoi l'un plutôt que l'autre? Si vous traitez tel accident plutôt que tel accident, tel fait divers plutôt que tel fait divers, etc., vous n'êtes pas objectif. La hiérarchie de l'information, c'est subjectif. Donc ce qu'on doit à nos lecteurs, et moi je considère que c'est la base du journalisme, c'est l'honnêteté. Je dis toujours à mes lecteurs, d'où je parle, et j'essaie.
Ça veut dire quoi, d'où vous parlez?
Eh ben, de gauche. Par exemple, je suis un homme de gauche, social-démocrate, hein. Je suis
on en parlera tout à l'heure, vous n'êtes pas LFI, quoi.
Ah, non, pas du tout. Hein? Je suis libertaire, autant sur le plan économique que sur le plan sociétal. Ça va très loin sur le plan sociétal, hein. Par exemple, le droit à mourir, etc., au suicide assisté, etc., etc. Donc. Sur cet aspect idéologique, je le dis à mes lecteurs. Par exemple, je suis européen, je suis fédéraliste. Je l'ai toujours dit, je ne le cache jamais. Mais c'est pas pour ça que je vais vendre une sauce fédéraliste à mes lecteurs. Dire, il faut penser, le journalisme, c'est penser contre soi. Non, contre soi. Moi, j'ai fait des enquêtes depuis que je suis à Bruxelles qui ont plus déstabilisé l'Union européenne que ne l'ont jamais fait les europhobes.
Notamment celle sur Edith Cresson. Hein.
Alors, sur Edith Cresson qui a abouti à la démission de la commission Santerre. Mais je veux dire, je multiplie les...
Il y a aussi une enquête qui a marqué, celle sur Dominique Strauss-Kahn.
Ouais, alors, ça, c'est un papier. Ça, mais surtout, 2007, on peut y revenir après, si vous voulez, sur le journalisme, souvent, qui a du mal à accepter qu'on ne pense pas comme tout le monde. Mais moi, en tous les cas...
Mais parce que les journalistes, il faut penser comme les autres.
Il faut penser comme les autres. Et moi, je refuse. Donc, c'est pas parce que je suis pro-européen que je vais faire des papiers pro-européens. Et c'est ça l'honnêteté. C'est-à-dire, mes lecteurs savent que, en plus, lorsque je suis critique de l'Union européenne, c'est quelque chose qui est fondé, parce que ça touche juste. Et je refuse de laisser mon idéologie l'emporter sur les faits. Et c'est ça le journalisme pour moi.
Et il y a un thème hein, qui doit vous parler en tant que citoyen, journaliste à Libération, l'immigration. Comment on contribue honnêtement au débat sur l'immigration ? Est-ce que ça vous choque de constater que certains politiques mêlent immigration, délinquance et même surpopulation carcérale.
Le problème fondamental qu'on a, c'est que pendant des années, justement, on a été politiquement correct sur l'immigration.
Ça veut dire quoi, politiquement correct ?
Ça veut dire qu'on refusait de nommer les problèmes de peur d'être accusé de racisme. Moi, je me rappelle, c'était donc au milieu des années 80, où à Libé, on a osé faire un événement, bon, c'était une grande bataille interne, hein, un événement sur la population carcérale, où on montrait que la très grande majorité des détenus étaient d'origine immigrés.
Au milieu des années 80 ?
Au milieu des années 80. Donc ça doit être, j'essaie de me rappeler la date,
Ça fait 40 ans ?
Ça fait 1980-88, ça devait être dans ces eaux-là. Donc on avait réussi à faire cet événement. Et qui était un événement.
Bah, alors, on ne peut plus le faire. Hein.
Oui, mais pourquoi qu'est-ce qu'on a fait ? Évidemment, on dit voilà, les faits, mais pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y avait plein d'explications. Milieu social, surreprésentation des hommes jeunes, les biais policiers et les biais judiciaires. Donc tout ça, c'est expliqué. Mais il faut le dire. Or, pendant des années, on ne le disait pas. Et pourquoi ça a fait la fortune du Rassemblement National, d'après vous ? Ben, parce qu'ils disent, on nous ment. Mmh. Donc, il faut dire, voilà, quels sont les faits, même si ça nous déplaît. Un fait peut nous déplaire. Moi, vous savez, je croyais que je suis content quand je découvre que l'Union européenne fait mal quelque chose, que...
Mais parce que vous êtes un europhile.
Ah, mais un europhile convaincu, ouais. Je dis, un fédéraliste européen. Et donc, moi, je considère que même si ça fait mal, il faut dire les choses telles qu'elles sont, les nommer, mmh. Et ce n'est pas en ne nommant pas les choses qu'on va changer le réel. Et encore une fois, en faisant ça, et une grande partie de la presse de gauche est responsable de cela, mmh. On a fait le jeu du RN qui a pu dire, regardez, on vous ment. Mmh. Et aujourd'hui, on est en train de ramer derrière le RN, puisqu'on est obligé de reconnaître effectivement qu'il y a des problèmes qu'on, pendant des années, on a passé sous le tapis.
Je crois que d'ailleurs, on vous ment, c'est ce que les Gilets jaunes ont dit de vous.
Hein, c'est ça, hein. Ah, vous, les Gilets jaunes, de grands amis, ceux-là.
Voilà. Alors, retour à votre environnement familial. Vous allez voir de quoi je vais vous parler. Je crois que vous avez gardé en tête, Jean Quatremer, ce que votre père vous a raconté de la guerre.
Alors,
et ça correspondait à l'histoire de votre grand-père.
Alors c'est très intéressant parce que c'est effectivement ça, c'est un élément aussi fondateur. De ce que je suis, parce que c'est quelque chose qu'il nous racontait régulièrement.
Qui est votre père?
Mon père. Donc en juin 1940, ma famille, c'est une vieille famille maurassienne, anti-dreyfusarde, donc antisémite, profondément antisémite, parce que c'était ainsi qu'était la Lorraine. La Lorraine a été une des premières régions de France à chasser les Juifs qu'elle avait sur son territoire. C'est quelque chose qui est très 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 identitaire chez les Lorrains,
très marquant.
Et mon grand-père, c'est mon père qui me raconte ça, donc réuni au lendemain de la défaite française,
donc, en juin 40,
et réunit donc sa femme et ses 6 enfants, dont mon père au milieu, et en disant, voilà, écoutez, des enfants, je vous annonce que la France a hélas perdu la guerre. C'est pas grave, on est occupé quelques années, mais les Allemands sont des gentlemen, ne vous inquiétez pas, et à toute chose, malheur est bon, ils vont nous débarrasser des Juifs.
Et
mon père me dit à ce moment-là, ouais, ne crois jamais ceux qui te disent qu'ils ne savaient pas ce qui allait se passer.
Donc ils savaient, voilà.
Voilà.
C'est ça qui est important.
C'est mon père.
Juin 40, voilà, ils vont nous débarrasser des Juifs, votre grand-père.
Voilà. Hein. Alors il dit pas qu'il pensait évidemment pas à la chambre à gaz, etc. Ouais. Il pensait qu'on allait les prendre, les déporter, les envoyer ailleurs.
Donc
Madagascar.
C'était dans la tête des gens.
C'était des gens. Mais l'antisémitisme à l'époque était absolument incroyable. Je veux dire, le Temps, par exemple, qui était le prédécesseur du Monde avant la guerre, ce qui titrait le Juif Mandel, à propos d'un ministre de la République, le Juif Mandel. Je veux dire, c'est un truc hallucinant.
Et alors, votre père, quels enseignements il en a tiré de la France antisémite de Vichy comme il l'a vécu?
Pour lui, l'antisémitisme, c'était quelque chose de terrifiant. Il fallait se battre contre ça. Il a vu son propre père sombrer dans cet antisémitisme. Même à 12 ans, il avait 12 ans à l'époque, il était sidéré d'entendre, 10 ans au moment de la défaite, d'entendre son père dire une chose pareille, parce qu'il ne comprenait même pas. Comme il y avait quasiment pas de Juifs en Lorraine, ils comprenaient pas de quoi on parlait, c'est quoi un Juif.
Et donc il vous a mis ça dans votre tête.
Dès le départ, il nous a appris à refuser, à se battre contre l'antisémitisme, le racisme en général, ouais, évidemment. Le racisme, c'était tellement pas... Je veux dire, c'était mon père, en Algérie, autant il critiquait, par exemple, il nous racontait le racisme des grands latifondistes, des propriétaires terriens. Mmh. Et pour lui, la guerre d'Algérie serait arrêtée si on avait passé devant un peloton d'exécution quelques centaines de propriétaire terrien, et il dit, après, on aurait très bien pu... Lui, il était assez brutal, c'est un militaire, hein, quand même, de la Légion. Et il considérait que la guerre se serait arrêtée. Et lui, donc, le racisme, c'est une question qu'il se posait même pas. Il disait que les grands propriétaires terriens étaient racistes. Il m'a raconté des scènes épouvantables de la façon dont ses propriétaires se comportaient à l'égard des Algériens. Mmh. Mais lui, mon père, en tous les cas, c'était quelque chose qui lui était profondément étranger. Et c'est cet héritage-là que je l'ai, évidemment.
Alors, héritage, on va passer des années, hein, à entendre vos chroniques sur LCI, à vous lire, vous paraissez fasciné par Israël. C'est juste ou pas?
Non, je suis pas fasciné. Je n'ai jamais, et dans ma famille, ça a toujours été le cas, le droit d'existence d'Israël n'a jamais été questionné. Mmh. Voilà, c'est aussi simple. Et pour des raisons historiques, des raisons politiques, des raisons de post-Shoah, mais parce que quand les gens vous disent que c'est une colonisation, mais je sais pas d'où ils tirent cette idée-là, parce que comme s'il y avait pas de Juifs au Moyen-Orient avant 1948, je veux dire, c'est vous trompez, lisez l'histoire,
D'ailleurs, je vous entends parler colonisation, on va en parler. C'est une analyse qui diffère totalement de celle, par exemple, de Daniel Schiderman dans Libération.
Ah, mais complètement, oui. Hein? Mais il peut le dire.
Ouais.
Mais moi, je veux pouvoir dire l'exact inverse. Le journalisme, encore une fois, ce n'est pas une unité de pensée, ce n'est pas la pensée unique, c'est le débat, c'est accepter que l'autre ne pense pas comme vous et qu'on représente, et moi, c'est mon combat à l'IB, qu'on, l'ensemble de la gauche soit représenté de LFI, voire à la gauche de LFI, si ça existe encore, jusque, je dirais, au Parti Socialiste, Place Publique, etc. C'est ça. Et la gauche ne pense pas forcément la même chose sur Israël, sur l'antisémitisme, sur le racisme, sur l'intégration, sur la place de l'islam dans la République, etc., etc. Dire, on a le droit d'avoir ces débats sans se faire insulter, sans se faire traîner dans la boue, comme cela arrive, hélas, trop souvent dans le débat français.
Et ça vous arrive.
Ça m'arrive, oui, plus souvent qu'à mon tour.
Colonisation, fait colonial. Où on arrête le curseur dans la lutte contre le colonialisme.
Mais ça n'a aucun sens, parce que, encore une fois, je ne comprends même pas de quoi il s'agit.
Ah, parce qu'on part du fait que beaucoup aujourd'hui disent, notamment LFI, Israël-Palestine, conflit du Proche-Orient, c'est une guerre coloniale.
Non, mais ça, d'abord, il n'y a pas un État qui existe au monde parce que Dieu a décidé de le créer. C'est-à-dire, il n'y a pas un État qui ne se soit pas créé par la conquête, par la violence. Ça n'existe tout simplement pas. Mm-hmm. Je ne connais pas un État, je ne connais pas une culture au monde qui n'ait pas le fond de la culotte sale. Donc, avant de grimper un arbre, il faut regarder sa propre culture. Mm-hmm. Je veux dire, parlons de la conquête arabe. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y avait ? Vous croyez que les Arabes, ils sont au Moyen-Orient, ils sont en Afrique depuis l'origine ? Mm-hmm. Je veux dire, évidemment pas, ils étaient en Arabie Saoudite. La première chose, c'était la conquête arabe. Mais avant, il y a eu la conquête ottomane aussi, la conquête romaine. Les Phéniciens, les Grecs, les Perses, etc. Je veux dire, on arrête où le curseur ? Et à partir de quel moment on considère que qu'une présence sur un territoire est légitime ou illégitime ? Ça, c'est super intéressant. À partir de quand ? Je veux dire, à partir de 70 ans, 3 siècles, on remonte à 5 siècles.
1000 ans,
voilà, 1000 ans. Je veux dire, ça n'a aucun sens. L'histoire est complexe. Donc, quand je vois ces gens qui sont là avec des solutions indigitantes, des solutions simples, mais c'est hallucinant. Qu'ils aillent sur place voir, ils vont voir s'il y a des solutions simples. Ça m'intéresserait.
Il y en a qui sont allés voir, on va parler de Rima Hassan. Vous baignez dans un milieu de gauche à Libération. Cette nouvelle identité de gauche LFI, les Insoumis, ça vous fait penser à quoi ?
Ah ben,
et vous en pensez quoi ?
Mais moi d'abord, ça m'est totalement étranger, parce que la gauche communautariste, j'avoue que c'est une nouveauté en France. Ça,
qu'est-ce que vous appelez la gauche communautariste ?
C'est-à-dire, là, on joue clairement une communauté, la communauté musulmane, qu'on imagine.
C'est LFI.
C'est LFI, bien sûr. Et donc, c'est la LFI qui joue une communauté musulmane qui est essentialisée. C'est hallucinant, c'est du racisme. Hein.
Comme Mélenchon essentialise aussi un certain nombre de juifs, comme il a fait pour Jérôme Gage. Hein.
Exactement. Donc là, c'est en fait, en gros, tous les musulmans seraient tous islamistes, et les islamistes pensent telle chose, etc. Donc,
vous partez des déclarations de Mélenchon et de ses proches
de la secte
ou de la meute, comme vous voulez, pour arriver à cette conclusion.
Exactement. Et donc là,
ça veut dire que quelque part, c'est du racisme chez eux ?
Ah ben, je pense véritablement, oui. Et vous savez, c'est pas moi qui le dis, il suffit juste de lire le dernier rapport de l'Office de protection allemand de la Constitution, l'Office fédéral de protection de la Constitution, qui a fait un rapport là, qui vient d'être publié. On parle de l'Allemagne, donc ce sont les services secrets allemands, si vous voulez, qui vous disent que l'extrême gauche, maintenant, ils parlent des 3 A de l'extrême gauche, anticolonialisme, anticapitalisme et antisémitisme. C'est dans un rapport officiel.
Et on peut dire ça de la France ?
Et on peut dire ça de la France.
Donc, de LFI ? Non, mais je vous pose la question.
Mais moi, encore une fois, LFI, c'est hallucinant de la part de Jean-Luc Mélenchon. Encore une fois, de la part de Jean-Luc Mélenchon, ce qui est hallucinant, c'est quand on se rappelle
trois,
du Mélenchon.
Ce que c'est les trois.
Anticapitalisme, anticolonialisme, antisémitisme.
Et LFI, c'est ça ?
C'est la gauche radicale, hélas, qui s'est perdue là-dedans.
Donc,
les triple A. Et ce qui est hallucinant de la part de Mélenchon, c'est qu'avant 2009, il n'était pas comme ça. Écoutez ses discours sur l'islam, sur la laïcité, sur le voile, sur l'antisémitisme, c'est impeccable.
On l'a connu.
Et du jour au lendemain.
Son hommage à Charb.
Voilà. Hein? Et du jour au lendemain, à partir de 2018-2019, c'est la grande bascule.
Il a vrillé.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait ? À chaque fois, évidemment, c'est toujours, vous savez, c'est toujours à la limite, lui, ou c'est une partie des gens qui sont autour de lui. C'est ce que j'appelle, moi, le sifflet à ultrason antisémite. Vous savez
quoi ?
C'est-à-dire que vous avez un sifflet à ultrason, les antisémites savent ce qu'il dit. D'accord ? C'est les mots codes qui permettent. Alors aujourd'hui, il y a deux mots codes pour ça. C'est vraiment le génocidaire. On est tous génocidaires. Si on n'est pas dans le camp du Hamas, on est génocidaire. C'est quand même assez extraordinaire. Quand même.
Siffler à l'ultrason antisémite.
Voilà, c'est pour
ça. C'est la première fois que j'entends ça.
Et donc
comment on fait au chien, quoi.
Exactement, c'est-à-dire que vous identifiez de très 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 loin le vocabulaire qui est employé et antisionisme.
Et là, donc ça veut dire, attendez, je précise les choses, c'est-à-dire que les antisémites, ils comprennent ce langage.
Ils le comprennent parfaitement, ce langage.
Et donc ils adhèrent.
Ben, quand on traite tous les juifs de génocidaires ou de sionistes, tout le monde comprend ce que l'on veut dire.
C'est quoi?
Ben, voilà, c'est de l'antisémitisme.
Est-ce qu'il faut considérer la France insoumise comme l'un des lieux de l'entrisme de l'islamisme des frères musulmans?
Ben, vous savez, moi, vous connaissez
la Belgique.
Voilà, j'allais le dire. J'allais partir de la Belgique. J'ai vu en Belgique, en fait, un entrisme des frères musulmans, ou des islamistes, parce qu'il n'y a pas que les frères musulmans. Actuellement, on fait une fixation sur les frères musulmans. Ouais. Mais il y a plusieurs mouvements fondamentalismes qui ont fait de l'entrisme. Qu'est-ce qui s'est passé en Belgique? Eh bien, vous avez des partis politiques, notamment le Parti Socialiste Francophone, qui a parié sur la communauté musulmane, qui a négocié avec la communauté
notamment
musulmane.
Notamment à Molenbeek?
Notamment à Molenbeek, mais il n'y a pas qu'à Molenbeek, hein. Il y a Anderlecht, il y a Evere, etc. Donc communauté musulmane, communauté turque aussi, il y a eu des accords qui ont été passés avec la communauté turque, parce qu'il y a une forte communauté turque à Bruxelles, et ils ont passé des accords. En gros, c'était, vous votez pour moi, je vous apporte quelques centaines de voix, ça suffit à gagner une élection en Belgique, quelques centaines de voix, et à partir de là, vous nous fichez la paix, on fait ce qu'on veut dans nos mosquées, on fait ce qu'on veut dans nos écoles, etc. etc. Dire que le Parti Socialiste en Belgique, par exemple, il soutient l'abattage rituel, il soutient le port du voile dans le service public, etc., etc.
Et on a vu. Donc c'est ce que Mélenchon fait en France.
Et alors, on a vu pendant des années, on n'a pas vu que ça. On voyait plutôt la promotion rapide de gens d'origine étrangère, immigrés, surtout du Maroc. C'est essentiellement une migration marocaine. Mmh. Et ça fonctionne bien. Mais on n'avait pas vu que derrière, donc il y avait cette promotion, il y avait souvent des mouvements islamistes. Le résultat, c'est quoi? C'est que ils ont pénétré le Parti Socialiste, les écologistes, c'est une catastrophe chez les écologistes, une partie des anciens démocrates chrétiens, il faut quand même le faire, des anciens démocrates chrétiens francophones et des libéraux, ils ont pénétré ces différents mouvements, et aujourd'hui, hein, vous avez...
Il y a un risque du même type en France avec LFI ou pas?
Pour moi, il y a un risque. LFI joue déjà le communautaire, ça, ils s'en cachent même pas. Il suffit de lire le livre de Ruffin, il le dit clairement, dans la Meute, c'est dit clairement. Donc aujourd'hui, c'est plus un mystère pour qui que ce soit. Et est-ce que c'est un risque? Non, parce que nous, on a la laïcité. Ah, ouais. Et parce que, heureusement, à part LFI et les Verts, faut pas sous-estimer aussi la dangerosité de Europe Écologie Les Verts, à part ces deux mouvements-là, les autres résiste extrêmement
et
bien.
On avance, il reste peu de temps, beaucoup de questions. vous parliez tout à l'heure du terme génocide, et aussi guerre coloniale, otage d'Israël, s'agissant des membres français de la flottille, parmi lesquels Rima Hassan qui est rentré jeudi à Paris. Qu'est-ce que vous inspire ce choix de mots par, j'allais dire, la meute de la France insoumise?
Mais je trouve ça... des mots. Mais ce qui était très étonnant, d'abord, c'est comment la guerre à Gaza s'est imposée dans le débat politique français. Nous ne sommes pas impliqués dans ce conflit. Nous ne sommes pas impliqués. Les Juifs français, à part un ou deux qui ont fait leur alia et qui éventuellement ont été combattre sur place, ne sont pas impliqués dans ce conflit. Nous n'avons pas de ressortissants sur place. C'est pas quelque chose qui nous concerne. Notre sécurité n'est pas mise en cause. Ce qui nous concerne davantage, c'est l'Ukraine. C'est ça, l'Ukraine.
C'est l'Européen qui parle. Voilà.
Oui, mais c'est l'Ukraine, ça veut dire qu'on a un risque de guerre sur notre territoire.
Et on avance.
Et donc, pourquoi est-ce que d'un seul coup, il y a cette fixation sur ce conflit, qui est pas l'un des plus, qui est terrible. Attendez, vous allez pas me faire dire que c'est pas quelque chose. Et je soutiens pas la politique de Netanyahou, je tiens à le dire. Mais pourquoi cette fixation? Pourquoi on n'a pas parlé autant? On parle toujours pas d'ailleurs de ce qui se passe au Congo. Pourquoi on parle? On en parle de temps en temps.
Les
Ouïghours, le Soudan, le Yémen, l'Irak, la Syrie, etc.
No news, c'est ça?
Mais c'est simple, hein? Oui, parce qu'il n'y a pas de juifs dans le secteur. Et c'est incroyable. Je veux dire que c'est quand même Israël, c'est minuscule, d'accord? Il y a 10 millions d'habitants, dont 6 millions de juifs, 6 millions et demi, je crois, de
13 millions de juifs dans le monde sur 8 milliards d'habitants. Hein.
Voilà, c'est exactement. Et donc, il y a 1,5 milliard de musulmans entre l'Afrique et le Moyen-Orient, et une fixation sur
comment
ce
vous l'expliquez en avance?
Pour moi, c'est parce que il y a le vieux fond antisémite de l'Europe qui se réveille. Il y a trois sources de cet antisémitisme, comme le dit très bien l'Office fédéral allemand de protection de la Constitution, l'extrême gauche, qui maintenant s'assume antisémite au nom de l'antisionisme. Mmh. Ce que disait Jean Kilevitch, l'antisionisme, c'est la façade présentable de l'antisémitisme. Le vieux fond antisémite de l'extrême droite, qui est toujours là, faut pas sous-estimer le danger que présente l'extrême droite. Et enfin, l'antisémitisme de l'islamisme. Il faut se rendre compte que si le Hamas, moi c'est un truc qui me rend fou, si le Hamas avait la puissance de feu d'Israël, il y aurait plus un juif vivant. Là, on aurait vu un génocide.
Ça serait la Palestine, comme dit Rima Hassan.
Du fleuve à la mer.
À la mer. Hein.
Voilà. Et c'est ça la réalité.
Et donc là-dedans, et les filles?
Et les filles jouent sur ce triple antisémitisme, et a réussi à focaliser tout le débat français. Ça, c'est sa réussite, hein. C'est incroyable. Elle a réussi à focaliser le débat français sur cette question-là. Vous vous rendez compte, depuis que Trump est là, l'ordre international a explosé en plein vol. On risque un conflit mondial. Plusieurs pays envisagent de sauter de l'arme nucléaire. Mmh. On sait très bien que le commerce international est en train de déraper. Et de quoi on parle ? D'un conflit à Gaza. C'est complètement hallucinant.
Alors, un conflit à Gaza, il reste 7 minutes, beaucoup de questions. D'ailleurs, par rapport à l'emploi du terme génocide, Delphine Orvillère, Johan Sfarad, 5R, BHLR, Finkel Kroth ou Denis Oliven, que vous connaissez bien, critiquent la poursuite de la guerre d'Israël à Gaza. Mais ils ne reprennent pas à leur compte, au contraire, les accusations de génocide. Non. Ils disent que ce n'est pas un génocide. Non.
Et vous ? Ah, moi, je le dis depuis le début, dès février 2024, j'ai écrit un article dans Libération, publié sur le journal, dans le journal, où je dis le génocide, c'est le terme de trop. C'est un génocide. D'abord, je ne comprends pas pourquoi on utilise le mot génocide. Si, je sais pourquoi. Ouais. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, génocide, normalement,
sifflet à ultrason.
Là, c'est le sifflet à ultrason. Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, dans le droit international, crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide, ce sont les mêmes sanctions. Il n'y a pas un degré de gravité. Mais quand on dit que les juifs, victimes de la Shoah, commettent un génocide, alors qu'ils font une guerre, qu'ils mènent une guerre, qui tue des civils, mais je ne connais pas une guerre où on ne tue pas de civils, eh bien, c'est une façon de nier la spécificité de la Shoah et de dire que ce qui fonde la particularité justement de l'histoire juive, c'est-à-dire ce crime que nous avons, nous, Européens, commis tous ensemble contre les Juifs, au fond, eh bien, il est effacé par ce qui se passe à Gaza. Et donc, les Juifs perdent, quelque part, leur... Et les Israéliens, parce qu'ils ne parlent pas des Israéliens, ils parlent des Juifs en général. Ouais. Et les Juifs en général ne peuvent plus revendiquer d'avoir été victimes de la Shoah. Si ce qui se passe à Gaza est un génocide, ça veut dire que toute guerre est un génocide. Et si toute guerre est un génocide, il n'y a plus de génocide. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la guerre. Donc les Juifs n'ont pas été victimes de génocide, ils ont été victimes d'un point de détail de l'histoire, comme disait Jean-Marie Le Pen. C'est ça qui me terrifie.
Et là, des points de détail de l'histoire, il y en a beaucoup tous les jours chez les filles? Point d'état de l'histoire.
Je pense que c'est, oui, il y en a beaucoup, dans le sens où, encore une fois, employer le mot génocide pour ce qui se passe à Gaza, c'est, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. J'en sais rien. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Je pense qu'il y a des ministres d'extrême droite du gouvernement Netanyahou qui sont profondément, qui ont une vision génocidaire de la politique. Ça, on a vu des déclarations qui font qu'il y a deux ministres.
Ben-Gvir et Smotrich,
voilà, qui font l'objet maintenant de sanctions de la part du Royaume-Uni et on devrait tous les sanctionner parce qu'ils ont tenu des propos inacceptables. Donc, voilà, c'est.
Et alors, on avance sur 5 minutes, beaucoup de questions. Depuis le pogrom du 7 octobre, parce que pour vous aussi, c'est un pogrom, LFI, plus globalement la gauche, PS, Vert, mais aussi les médias reprennent systématiquement à leur compte les chiffres du Hamas, c'est-à-dire les 53 000 morts civils et aussi le point de vue des thèses du Hamas. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Rapidement.
Dès le mois de novembre, vous vous rappelez quand un hôpital a été soi-disant bombardé par Israël et on a annoncé
des 53 000 morts civils.
Oui, mais on a annoncé 5 minutes après qu'il y avait 700 morts. Ouais. D'abord, comment on peut savoir qu'il y a 700 morts parce que si l'hôpital a été bombardé? Et moi, je fais tout de suite des tweets en disant mais chers confrères, faites attention, on ne sait pas ce qui s'est passé. Attendez, parce qu'il y a pas, il y a une seule source, celle du Hamas.
Et
on a considéré dès le départ, et ça c'est je ne le comprends toujours pas, que le Hamas était une source fiable. On croit davantage le Hamas que Israël. C'est incroyable.
C'est un choc.
Mais c'est scandaleux. Est-ce qu'on aurait cru l'État islamique, hein? Si l'État islamique, on a fait la guerre à l'État islamique, hein, quand même, il faut se rappeler, qu'on a tué environ 2 civils ennemis par combattant à Mossoul, au moment où la coalition, dont nous-mêmes, lorsqu'on combattait l'État islamique.
Manuel Valls l'a dit ici, il y a quelques mois.
Voilà,
il y a eu des milliers de morts civiles.
Mais bien sûr, les Américains ont tué combien de centaines de milliers de musulmans en Afghanistan et en Irak.
Et alors, on avance, l'histoire de la flottille. À partir du moment,
un bateau de luxe.
Oui. Hein, à partir du moment où vous ne reprenez pas à votre compte les informations du Hamas ou de LFI, vous êtes considéré comme relayant la propagande israélienne, notamment par Bompard, Mélenchon, Panot et compagnie.
De toute façon, moi, à chaque fois que puisque je ne partage pas les analyses effectivement portées par LFI et par d'autres, lorsque je critique le fait qu'on reprenne les chiffres du Hamas en disant dans le passé, ils ne sont pas trompés, donc on va continuer à les croire, alors que là, on a affaire à une guerre informationnelle, perdue d'ailleurs par Israël. Hein. Israël a perdu la guerre informationnelle. Ça, je le tiens à souligner, parce qu'ils n'acceptent pas qu'il y ait des journalistes sur place, c'est un peu de leur faute, ce qui arrive. À partir de là, on est accusé d'être payé par l'ambassade d'Israël. Et c'est quoi cette accusation?
Vous avez déjà eu, vous avez déjà accusé.
Mais bien sûr.
Blast, notamment.
Mais pas que. Je veux dire, des confrères qui disent clairement que je reprends les arguments de l'ambassade d'Israël.
Parce que pourquoi je vous parle de Blast? Blast, ça fait un portrait à charge contre vous.
Oui, mais ça,
Blast qui était présent sur le bateau.
Pour moi, c'est l'extrême droite qui je vous dis.
Blast,
c'est le fascisme de gauche, si vous voulez.
Blast,
Blast. Hein. Franchement, je veux même pas en parler parce que je trouve c'est tellement ridicule que c'est en pleurer. Mais encore une fois, dès que vous dites ça, eh ben vous êtes stipendié, enfin payé par Israël. Or si c'est quoi payé par Israël? C'est quoi là c'est le cycle à ultrason. Ça veut dire c'est le complot juif.
Les juifs, ils sont partout,
ils économisent les médias et puis
ils ont l'argent.
Ils ont l'argent. Eh ben cher auditeur, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas payé, je n'ai jamais été contacté par les autorités israéliennes. Je pense par moi-même.
Et c'est intéressant de vous entendre. LFI organise désormais des manifestations tous les deux jours sur Gaza. Mmh. Encore une hier samedi, à la gloire du Rémi Hassan de rentrée d'Israël. Hein pourquoi pour ces manifs, ça peut rapporter gros?
Manifestement, ils ont réussi.
Et qu'est-ce que vous en pensez de cette... D'ailleurs, Rémi Hassan, vous la voyez à Bruxelles? Vous
avez non, je la vois pas.
Pourquoi elle y est pas?
D'abord, elle s'occupe que de Gaza. Donc, moi, personnellement, au niveau européen, je m'occupe assez rarement de Gaza.
Vous êtes souvent au Parlement européen.
Et donc, j'évite de croiser Rima Hassan et tous les gens de LFI.
Qu'est-ce que vous en pensez de Rima Hassan?
Mais donc, le fait que, le LFI a réussi quelque chose, encore une fois, mais c'est de la faute des médias, parce qu'au lieu de mener des enquêtes sur qui finance, qui est derrière
Qui finance la flottille, d'ailleurs,
qui finance
la flottille du Hamas.
Voilà, exactement.
Sur le bateau, un certain nombre d'activistes, dont un Brésilien qui est allé aux obsèques de Nasrallah en prononçant un discours à sa gloire.
Mais c'est incroyable, je veux dire que tout ça, on aurait dû le lire dans la presse française, on l'a lu où? Dans la presse anglo-saxonne, et puis finalement dans Franc-Tireur notamment, où ils ont sorti ces informations, et sur LCI, où ils ont repris ces informations-là. Je veux dire, on n'a pas mené d'enquête, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que LFI a réussi son coup, parce que quand on voit qu'aujourd'hui, la flottille, c'est plusieurs milliers de manifestants, pour soutenir Rima Hassan, qui n'a jamais risqué quoi que ce soit, et qu'il n'y a pas un manifestant, quelques dizaines par-ci par-là, pour les otages qui sont détenus quasiment depuis deux ans.
Ça vous fait mal?
Mais oui, mais c'est monstrueux. Hein? Ça veut dire qu'on s'en fout. Un juif, la vie d'un juif ne vaut rien aujourd'hui en France. Tout le monde s'en fiche.
C'est dur d'entendre ça.
Mais oui, vous vous rendez compte, quand il y a eu des Français enlevés en Liban,
si vous dites
dans
ça,
les années 80, tous les jours, ils sont détenus, c'était Jean-Paul Kaufmann, détenu depuis 380 jours.
Ou Georges-Marc Bruno.
Exactement. Tout un nombre de gens qui étaient détenus. Aujourd'hui, on ne fait pas ça. Et pourtant, il y avait des Français parmi les otages. Il y avait des Français et tout le monde s'en est fichu. Franchement. Ça me fait mal.
Donc ça veut dire que c'est...
Et que parler d'otages pour Rima Hassan, qui a été arrêté par un État démocratique, qui lui a payé l'avion pour rentrer et parler d'otages, mais il faut avoir...
Instrumentalisation, a dit François Bayrou.
Hein. Oui, mais il faut avoir oublié ce qu'est la honte.
Caron, vous avez quelque chose à en dire de lui, hein? L'ex défenseur des animaux.
Le problème, c'est que je sais que des enfants nous écoutent et donc je vais rester
pourquoi
poli.
Pourquoi? Qu'est-ce que vous dites?
Je vais rester poli. Voilà.
Dernière question, vous vivez en Belgique où l'appareil politique est contaminé par le communautarisme et l'islamisme, comme vous venez de dire. On est plus heureux en France ou en Belgique?
On est mieux en France de ce point de vue-là. Ouais. La France, elle a un rempart extraordinaire qui est la laïcité. Ouais. Il y a deux choses. C'est que je pense que LFI ne gagnera pas ce combat-là. La France reste le pays qui est le premier pays qui a reconnu la pleine citoyenneté aux Juifs. Mmh. Et c'est quelque chose de fondamental.
Mais il ne faut pas oublier les autres racismes. Hein. Ça, je préfère le dire ici.
Je le répète moi-même, il ne faut absolument pas oublier les autres racismes. Aucun racisme n'est tolérable.
N'est acceptable. Tous les racismes doivent être combattus.
De s'en prendre à un musulman parce qu'il est musulman, c'est inacceptable. En revanche, on peut critiquer, évidemment, la religion. Voilà, quelle qu'elle soit.
Quelle qu'elle
et
soit.
On peut critiquer Netanyahou sans remettre en cause l'existence d'Israël. Voilà.
Et c'est ce qui se fait en Israël.
Voilà. D'ailleurs. Et c'est ce qui se fait en Israël. Il faut soutenir la gauche israélienne qui tous les jours se mobilise contre Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite.
La gauche et le centre. Hein.
C'est juste l'apprentissage de la complexité.
Merci en tout cas, Jean Quatremer, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin de journée sur Radio J. À dimanche prochain. Merci.
Ça, c'est uniquement sur Radio J.
Radio J.
Shlomo, Malka, Pont-Neuf, retrouvez-moi tous les dimanches à 16h pour l'émission littéraire sur Radio J, émission consacrée à l'actualité du livre.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio J, c'est Shirelle. Je viens le 23 juin au Palais des Glaces pour chanter Yen Tel and Me, un spectacle qui parle de femmes, qui parle d'Israël, qui parle d'identité. Et j'espère que vous viendrez nombreux pour l'association Netzach et Tzedek qui aide les enfants en Israël.
Réservation netzach1948.com
netzach1948.com et 0603 52 88 88. Shirelle, sur la scène du Palais des Glaces le 23 juin. Les cultures juives, ça se défend. Et les CUJ aussi. Soutenir les CUJ, c'est transmettre la richesse des cultures juives, lutter contre l'ignorance et renforcer une vie juive libre, ouverte et accueillante. Les 15 et 16 juin, on compte sur vous pour la première grande campagne d'appel aux dons de les CUJ.
Et votre impact est doublé.
Oui, oui, chaque don compte double.
Double.
Alors rendez-vous les 15 et 16 juin sur allodon.fr/ECUJ. Facile, allodon.fr/ECUJ.
אז מה קרה לך? אני בן אדם בסך הכל תמיד מנסה להיות סבבה, תני לי למה, כמה, כמה כי אני צריך את הריגושים שאת עושה לי שמה אני ככה שקוע במין חלום שיא הרגש תביא לי קצת אהבה כי אני רק אדם באמצע החיים בדרך לשמיים ואת האישה שמשתוללת אצלי בדם שיבה ליגה עצמי בשבילי את העולם כי אני בפיצוץ עצמי אהה כן אני בפיצוץ עצמי אש יוקדת, אוחזת בי מפעם לפעם שבי פה ותקבלי פינוק מושלם טוב לך, כן גם אני חם מנשיקות שפתייך הרכות אני משתגע אני מתנועע, שוטה ובולע מאמי, את רכה שלי, מתוקה שלי אני נוגע בגן עדן הדקה שלי, מתוקה שלי, אני נוגע בגן עדן.
אור השמן מטפף עליי, אני מריח ריחות שעושים להיות.
אני טמון בך, חמה ומשגעת, אש על כל גופך שורפת ונוגעת. כמה שזה טוב, אני לא יכול לחשוב. אני שט לי הלוך ושוב, מחושב בכיוון שלך. מחושב בכיוון שלך. מחושב בכיוון שלך. מחושב בכיוון שלך.
מחושב
בכיוון שלך
אני נוגע בגן
עדן
מחושב בכיוון שלך
מחושב בכיוון שלך
אני נוגע בגן עדן
אז מה קרה לך? אני בן אדם בסך הכל תמיד בן אדם
רדיו G
Nous n'avons jamais eu autant besoin de sens.
Radio J.
שכלום לא ממלא אותי
לידך כבר יש לך קול ואין לך ברכה Yeah.